Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daume, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler des violences sexuelles sur les femmes. Les violences sexuelles sur les enfants feront l'objet d'autres podcasts. En France, chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols, sachant que c'est une estimation basse. La représentation la plus classique du viol est celui commis par un inconnu, dans la rue. Ce cas de figure représente pourtant moins d'un sur dix. En effet, dans 91% des cas, l'auteur de la violence est une personne connue de la victime. Fait encore moins connu, dans 47% des cas, on a affaire à des viols conjugaux. 47%, près d'un cas sur deux. C'est pourtant un phénomène dont on parle peu et qui reste largement tabou. Sa prise en compte est d'ailleurs récente, puisque le viol conjugal n'est inscrit dans le code pénal que depuis 2006. Alors avant d'aller plus loin, définissons les termes que nous allons utiliser aujourd'hui. Depuis 1980, la définition du viol en droit français est la suivante. Acte de pénétration sexuelle commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est un crime, et petite précision importante, l'acte sexuel commis sur une personne pendant son sommeil constitue aussi un viol, reconnu judiciairement. Le viol devient conjugal quand il a lieu entre époux, entre concubins ou pacsés, mais aussi entre ex-époux ou ex-concubins. Le viol peut être sanctionné de 15 ans de prison maximum et le viol conjugal de 20. Voilà pour la théorie. Et dans les faits ? Eh bien, dans les faits, seuls environ 12% des victimes portent plainte. Dans plus de 70% des cas, les plaintes sont simplement classées sans suite. Le procureur les met directement à la corbeille. Et les condamnations équivalent à moins de 1% des faits. Les sanctions sont donc prévues, mais rarement effectives. On peut même dire qu'il y a une forme d'impunité de fait. Alors, pour aborder le sujet des femmes victimes de viol, nous allons commencer par dézoomer et voir comment les violences sexuelles sur les femmes ont été prises en compte à travers l'histoire. Pourquoi ce détour? Eh bien parce qu'il permet de mieux comprendre, d'éclairer les difficultés, les barrières auxquelles sont confrontées aujourd'hui les victimes. Remontons tout d'abord dans l'Antiquité. Les archéologues ont trouvé très peu d'éléments sur le sujet des violences sexuelles. Dans les écrits grecs et latins, le sujet est aussi très peu abordé, ce qui constitue en soi une information sur la place occupée par cette question à cette période de l'histoire. Quand condamnation morale il y a, elle est plutôt basée sur le non-respect des règles religieuses. L'atteinte à la femme est jugée avant tout comme une atteinte à l'honneur de son époux. On ne trouve d'ailleurs pas vraiment de notion de violence sexuelle dans le couple, qui demeure un impensé. Quant aux esclaves, ils sont considérés comme la propriété de leur maître et à ce titre, les violences sur eux, quelles qu'elles soient, sont peu ou pas condamnées, tant judiciairement que socialement. Au Moyen Âge, le viol est perçu comme une atteinte à l'ordre moral, aux valeurs chrétiennes. L'homme violent est condamné moralement, mais la femme victime l'est tout autant. Si elle est une jeune femme non mariée, elle perd son honneur, elle devient inépousable en perdant sa virginité. Elle se voit souvent contrainte de quitter sa famille et se retrouve exclue de la société, ce qui l'amène souvent, de fait et par défaut, vers la prostitution. Les femmes ont donc intérêt à se taire, à cacher, à rendre secret. Car être victime de viol, si cela se sait, revient à être victime en plus et dans le même temps d'exclusion sociale. Georges Vigarello, dans son Histoire du viol, nous en expose son traitement par la société à partir du XVIe siècle. Sous l'Ancien Régime, sexualité et violence sexuelle sont peu différenciées. Elles sont toutes les deux associées à la luxure, au péché, donc condamnées religieusement et moralement. Le viol est perçu comme une transgression morale, un peu au même titre que l'adultère. Il est avant tout un crime contre les bonnes mœurs. Il n'y a pas de préoccupation pour l'impact psychologique du viol sur la victime. D'ailleurs, la victime, surtout si elle est une adulte, est soupçonnée d'être partie prenante. De ce fait, son honneur, sa réputation sont entachés. Du point de vue judiciaire, les agressions sexuelles sont mal définies. même si des sanctions sont prévues par la loi contre les atteintes aux personnes. Plus clémente toutefois que les sanctions contre les atteintes aux biens, comme les vols, par exemple. Les cas portés en justice sont rares et donnent lieu plus rarement encore à condamnation. Plus que la justice, les histoires de violences sexuelles, très souvent tues, cachées, se règlent parfois au sein de la communauté, avec des vengeances exécutées par des membres de la famille, vengeances visant à laver l'honneur de la famille. La femme, nous l'évoquions un peu plus tôt, est supposée coupable et consentante des violences sexuelles subies. Donc, si elle est mariée, elle est suspectée d'adultère. Les débats sur l'innocence ou la culpabilité de la femme violée ont traversé les siècles. Au XVIIIe siècle, pourtant siècle des Lumières, le débat penche clairement du côté de la culpabilité féminine. Les philosophes des Lumières ont sur le sujet un point de vue surprenant. Tant Voltaire que Rousseau et Diderot estiment qu'un homme seul ne peut tout simplement pas violer une femme, car cette dernière pourrait se défendre et empêcher l'agression de se produire si elle le voulait. À leur décharge, à l'époque, l'effet de sidération n'était pas connu. La sidération est la première réaction face à une situation traumatique. Elle immobilise la victime. Mais à l'époque surtout, le différentiel de force physique entre hommes et femmes était surprenamment minimisé, non pris en compte. J'ouvre ici une parenthèse pour évoquer mon expérience clinique. Pour avoir entendu de nombreux récits de femmes victimes de viols, l'usage de la force physique par leur agresseur est un élément important. La victime se retrouve contrainte et immobilisée physiquement dès le début de l'agression. Dans les récits de femmes victimes, la contrainte par la force est très souvent centrale. Si on résume, pendant des siècles, voire des millénaires, les violences sexuelles ont été surtout réprouvées comme des atteintes aux bonnes mœurs et à la religion. Et depuis le Moyen Âge, au moins, et jusqu'au siècle des Lumières, les femmes victimes étaient considérées comme suspectes. Elles étaient perçues comme déshonorées et, de ce fait, exclues socialement. La Révolution française rebat les cartes et permet une première amélioration dans le traitement du sujet. Ainsi, dans le Code pénal de 1791, le viol est puni de 6 ans de fer. Mais la société évolue plus lentement que la loi, et dans les faits, le viol reste largement non sanctionné. Même si, dès la fin du XIXe siècle, le développement de la psychologie a permis d'enfin s'intéresser aux conséquences des violences sexuelles sur les victimes, il a fallu attendre le mouvement féministe dans les années 70 pour que le regard porté sur les violences sexuelles évolue sensiblement. Et puis, plus récemment bien sûr, en 2017, le mouvement MeToo a contribué à faire évoluer les représentations sociétales. Finalement, à mesure qu'une conception plus égalitaire entre hommes et femmes se diffuse, la femme victime est davantage perçue et reconnue comme telle. On s'intéresse davantage à son vécu. Cependant, c'est d'autant plus vrai que la violence sexuelle est le fait d'un inconnu. Rappelez-vous, moins d'un cas sur 10. Pour les viols conjugaux, il faudra encore attendre. La conception qui a prévalu jusqu'à la fin du XXe siècle est issue du droit canonique. Pour l'Église, la consommation du mariage est une condition de sa perfection. C'est donc dans ce droit canonique que l'on trouve la notion de devoir conjugal. Dans cette conception, le mariage vaut consentement pour tous les rapports sexuels qui se déroulent dans son cadre. La notion de présomption de consentement dans le couple reste largement consensuelle jusqu'au XXe siècle. Elle ne sera d'ailleurs supprimée qu'en 2010. Quant au viol conjugal, sa première condamnation en France date de 1992, jugement qui fera jurisprudence jusqu'à ce qu'enfin, en 2006, la loi du 4 avril reconnaisse la spécificité du viol entre époux. Alors, quelles sont les conséquences à long terme de ces viols? Il existe beaucoup d'études au niveau international sur ce sujet, mais dans cet ensemble, il n'est pas toujours évident de différencier ce qui appartient aux violences sexuelles subies au cours de l'enfance et celles subies à l'âge adulte, d'autant qu'un certain nombre de femmes victimes ont déjà subi des sévices sexuels enfants. Les études sur les conséquences d'une agression sexuelle à l'âge adulte ont en tout cas été synthétisées par l'Institut national de santé publique du Québec. Voici ce qui en ressort. La principale conséquence à long terme des violences sexuelles subies à l'âge adulte est le syndrome de stress post-traumatique. Un syndrome de stress post-traumatique, en très très résumé, ce sont des flashbacks, un envahissement émotionnel, des cauchemars, un évitement de tout ce qui peut rappeler le souvenir traumatique et aussi souvent des symptômes dissociatifs. N'hésitez pas à aller voir, si vous le souhaitez, le podcast que j'ai fait à ce sujet. Mais il n'y a pas que le trauma. Les femmes victimes développent d'autres troubles. Elles ont davantage de problèmes psychosomatiques, gynécologiques, mais aussi de troubles de la sexualité. Ça ne paraît tout de même pas surprenant. Le risque s'accroît également de développer une addiction, par exemple à l'alcool, de développer des troubles anxieux ou une dépression, avec un risque suicidaire également plus élevé que la moyenne. Une autre conséquence de la violence subie est aussi la méfiance dans la relation à l'autre. Là aussi, rien d'étonnant. En résumé, les violences sexuelles ont beaucoup d'impact à long terme sur la santé des victimes. Il y a le traumatisme, mais aussi souvent un développement d'autres troubles psychiques, de troubles aussi dans le corps, dans la sexualité, dans les relations intimes. Ça touche de nombreuses sphères de la vie des victimes. On peut dire que la vie des victimes est perturbée, dégradée, et ceci durablement. Aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser aux conséquences pour les femmes en termes de croyances et de pensées. Nous allons donc traiter de la sphère cognitive. Soyons clairs, être victime de violences sexuelles engendre une perte nette d'estime de soi. L'estime de soi est cassée, abîmée, autant que le corps dans cette affaire. Que se disent les victimes sur elles-mêmes ? Elles disent « je suis sale, je suis souillée, j'ai perdu ma dignité ». Ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Ces croyances sont identiques aux représentations sociétales des violences sexuelles au cours de l'histoire. Pendant des millénaires, les victimes ont été regardées avec suspicion, comme si elles portaient la culpabilité de la violence sexuelle au même titre que l'agresseur, voire plus. Pendant des siècles, les victimes étaient considérées comme des parias, rejetées par leur famille et par la société. Donc, au regard de cette histoire collective si lourde pour les victimes, et malgré l'éclairage des recherches scientifiques de ces dernières décennies, il n'est finalement pas étonnant que les femmes victimes de violences sexuelles aient cette image très détériorée d'elles-mêmes, qu'elles se perçoivent comme souillées, comme ayant perdu leur dignité. En tout cas, l'hypothèse qu'il y ait un lien de causalité entre l'histoire des représentations collectives au sujet des violences sexuelles et les représentations des victimes au sujet des violences subies paraît tout à fait plausible et intéressante. Un autre type de croyance négative revient aussi régulièrement dans les témoignages de victimes. Elles se perçoivent souvent comme faibles, n'ayant pas su se défendre. Elles me disent « c'est vrai, j'ai dit non. C'est vrai que je me suis débattue au début, mais ça n'a pas suffi ». Donc le fait de subir une violence, malgré le fait d'avoir exprimé leur désaccord, leur renvoie une image de faiblesse. Enfin, particularité des viols conjugaux que l'on retrouve aussi dans une moindre mesure dans le cas des viols par un ami ou un flirt, la trahison. Celui qui était aimé, celui que l'on a choisi, à qui on a choisi de faire confiance, finalement trahi. La blessure engendrée par la trahison est douloureuse. Elle renvoie à la victime une mauvaise image d'elle-même, l'image d'une personne naïve. Si j'ai choisi cet homme, si j'ai cru pouvoir lui accorder ma confiance, si je n'ai pas vu qui il était vraiment, alors cela signifie que je ne peux pas me faire confiance, que je suis naïve. J'ouvre ici une parenthèse sur les victimes de viols conjugaux. Celles qui viennent consulter me parlent rarement de viol. Elles utilisent en général plutôt l'expression « rapport forcé ». Elles disent « il y a eu avec mon conjoint des rapports forcés ». Penser, concevoir le viol conjugal, alors que d'une part c'est encore un sujet tabou, peu connu dans la société, même s'il représente 47% des viols subis par les femmes, et que d'autre part cela revient à prendre conscience que l'être aimé, celui que l'on a choisi, celui dont on a pu penser dans certains cas que c'était l'amour de sa vie, eh bien cet homme-là est un violeur, c'est douloureux. Ça génère aussi bien souvent un conflit de loyauté. Par exemple, c'est mon mari, le voir comme un violeur, est-ce le trahir ? Il faut souvent du temps et du soutien pour admettre la réalité, pour digérer l'information. Mais cette prise de conscience est aussi salutaire, libératrice, car alors la sphère cognitive est enfin en cohérence avec ce que dit le corps. Mais il n'y a pas que cela. Il faut maintenant aller plus loin. Dans quel cas les victimes relatent-elles des viols conjugaux? Eh bien, il y en a principalement trois. Dans le cadre de violences conjugales plus larges, avec aussi des violences physiques et psychologiques. Dans des cas de manipulation mentale, ces deux cas peuvent aussi être intriqués, naturellement. Et aussi dans des cas où la violence advient au moment de la séparation, voire après la séparation. Dans ce troisième cas de figure, on peut faire l'hypothèse que l'homme n'accepte pas la séparation et qu'il considère son ex-femme comme lui appartenant. Le viol vient exprimer cette possession de l'autre, de son corps, au-delà de la séparation. On peut constater un point commun évident entre ces trois cas de figure. Donc, pour rappel, violence conjugale, manipulation mentale, séparation non acceptée. Dans ces trois cas de figure, le passage à l'acte s'inscrit dans un rapport de domination. Revenons à présent au cas général et résumons les différents types de croyances. Il y en a quatre principales, trois dont nous avons déjà parlé et que l'on pourrait résumer ainsi. Je suis sale, je suis faible, je suis naïve. Elles sont solidement ancrées dans le psychisme des victimes. Elles sont aussi solidement associées à une émotion, la honte. Et comme la victime se sent honteuse, responsable, elle se sent aussi, fort logiquement, coupable. Donc la croyance c'est ma faute vient compléter les trois autres. Honte, culpabilité, confusion, autant d'émotions qui détruisent la victime à petit feu et qu'un travail de réattribution des responsabilités va pouvoir traiter. Justement, quel travail thérapeutique permet-il à la victime de faire évoluer ses croyances? Eh bien, un travail cognitif, qui est d'autant plus efficace qu'il intervient en parallèle d'un travail émotionnel sur le traumatisme, par exemple avec la technique EMDR. Tout d'abord, il s'agit et avant tout de croire la victime. C'est le plus important, c'est l'essentiel. La victime est déjà dans la confusion, la culpabilité, la honte. Donc si on ne la croit pas, si on met en doute ses propos, c'est très douloureux. Ça appuie justement là où ça fait mal. Donc écouter et croire, c'est le point de départ. Mais cela n'est pas suffisant. La deuxième étape, c'est de reconnaître la personne dans sa place de victime. Cela ne signifie pas du tout l'enfermer dans une position de victime, comme on peut le lire ça ou là. Ça veut dire l'aider à prendre conscience de sa place de victime pour qu'elle puisse, dans un temps ultérieur, l'inscrire dans son histoire, dans son passé, donc s'en détacher émotionnellement. Ce détachement paraît difficile, mais est-il seulement possible s'il n'y a pas eu d'abord reconnaissance par un regard extérieur qui vient valider l'expérience vécue dans le corps, et dans un deuxième temps, reconnaissance par soi-même de son vécu de victime. Le corps sait, il sait dès le départ. La sphère cognitive a besoin à son tour, dans l'après-coup, de rendre l'expérience vécue intelligible. Donc, reconnaître la personne dans sa place de victime, c'est aussi une étape essentielle. Mais cela passe également par le fait de nommer précisément les faits. Viol, agression sexuelle, viol conjugal. Quand les victimes racontent, elles utilisent souvent des périphrases, des mots vagues et flous. Face à ce discours vague, le thérapeute reprend avec des mots précis. Ce que vous me racontez là correspond à un viol, à une agression sexuelle, etc. Et cela aide grandement les victimes qui sont dans la confusion à y voir plus clair, à accepter leur place de victime. Le flou sémantique entretient la confusion. La précision sémantique permet à l'inverse de sortir la victime de la confusion. Elle est indispensable. La réattribution des responsabilités est aussi au centre de l'intervention thérapeutique. La victime se sent responsable, coupable de la violence subie, et l'auteur de la violence, lui, ne ressent le plus souvent ni honte ni culpabilité. Ce n'est pas logique, mais c'est ainsi. Les victimes ont donc besoin de réattribuer les responsabilités. Ce processus nécessite de l'empathie, de la bienveillance, plusieurs échanges et parfois de la répétition. On fait ce travail méthodiquement en prenant une par une toutes les croyances négatives. Ainsi, la première d'entre elles, je suis sale. Vous dites que vous êtes sale, Est-ce vous qui êtes sale ou bien le comportement de l'auteur de l'agression qui est sale? Étape par étape, répétition après répétition, la honte va perdre du terrain. Autre croyance, je suis faible. Je suis faible parce que je n'ai pas pu me défendre, pas pu empêcher le viol. Face à quelqu'un de plus fort physiquement, ne pas pouvoir empêcher la violence ne signifie pas être faible. Cela signifie que l'on subit un rapport de force qui est défavorable. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible ou fort. On peut tout à fait être forte, mais dans un rapport de force défavorable, ne rien pouvoir faire pour éviter de subir la violence. Donc dire l'autre est dans un rapport de domination avec moi et il a abusé de sa force physique dans ce cadre est une vision alternative beaucoup plus juste. Troisième pensée, c'est ma faute. La culpabilité est écrasante pour les victimes de violences sexuelles. Elle est une réaction fréquente suite à toute forme de violence, mais suite à une violence sexuelle, elle est à son paroxysme. Pour traiter cette culpabilité, on peut, comme on l'a fait précédemment, rappeler le différentiel de force physique qui peut être objectivé si on regarde la taille et le poids de chacun notamment. On peut aussi évoquer la sidération, qui est l'autre facteur qui rend la défense impossible sur le moment. La sidération, dans un premier temps, immobilise la victime. Rappelons que les violences sexuelles sont parmi les plus destructrices. Il est donc fort logique que les victimes soient immobilisées par la sidération. C'est ainsi que fonctionne le cerveau humain face aux situations de danger trop stressantes. Donc le seul fautif, le seul responsable est l'auteur de l'agression. Et oui, comme on l'a vu dans le podcast sur les idées reçues, la victime peut s'autoriser à ressentir de la colère vis-à-vis de cet agresseur, qui n'est pas un malade entre guillemets, qui n'est pas quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait, mais une personne qui fonctionne dans un rapport de domination. Quatrième et dernière pensée, je suis naïve. Si on y réfléchit, qui est responsable d'une trahison? Qui est responsable d'un abus de confiance? Est-ce celui qui trahit ou celle qui fait confiance parce que la personne en face est le conjoint ou un amant ou un ami? Et puis, rappelons-le ici, la violence sexuelle advient le plus souvent dans le cadre d'une relation d'emprise, d'un abus de pouvoir plus global. L'emprise peut être le fait de manipulateurs qui vont séduire narcissiquement leurs victimes, leur en mettre plein la vue, ou bien souffler le chaud et le froid pour jeter la confusion dans l'esprit de l'autre. Emprise, il y a parfois aussi dans la tyrannie, le pouvoir exercé par la peur, la menace et la violence physique. Bref, se retrouver piégé dans une relation d'emprise, c'est encore être une victime. Ce n'est pas être naïve, c'est être la proie d'un prédateur. On l'a vu, les femmes victimes de viol sont hantées par des croyances, des représentations, à la fois négatives et non rationnelles, qui en réalité sont celles qui habitent notre histoire collective, qui continuent à se diffuser dans la société et qui détruisent les femmes victimes à petit feu. Heureusement, il est possible de faire évoluer les croyances des victimes pour les libérer du poids d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Ce travail individuel, espérons peut-être que nous puissions aussi le réaliser, l'accomplir à l'échelle de la société. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a intéressé. J'ai hâte de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, prenez soin de vous.